Bienvenue sur la chaîne Ambiance Architecture Urbanité AAU.
Alors nous arrivons presque au terme de ces deux jours et demi de colloque et comme le disait Nicolas tout à l'heure, trois de nos collègues ont accepté une tâche qui est loin d'être simple et nous les remercions pour avoir accepté cette tâche qui est alors non pas de faire la synthèse du colloque comme nous l'avons indiqué dans le programme, le terme n'est pas juste, mais plutôt de nous livrer chacun à leur tour des regards croisés sur ce colloque, sur ce qu'ils croisaient et sur le vif, sur ce qu'ils ont pu entendre à la fois au moment de la conférence inaugurale, au moment des duos et puis au sein des sessions, et ce qui a peut-être un peu capté leur oreille en fonction eh bien, de leurs préoccupations propres et puis de leur trajectoire de recherche qui est diverse, tous les trois. Alors, je vais vous les présenter les uns après les autres, mais je sais que vous les connaissez déjà. Donc, Madame Catherine Groot, qui est professeure à l'ENSAP de Lille et chercheure au laboratoire LACT, qui commencera cette première contribution. Puis nous entendrons Emmanuel Doutrio, qui est maître de conférence à l'ENSA Paris-Val-de-Seine et chercheur à l'unité de recherche EVCAU. Et enfin, Virginie Millot, qui clôturera ce moment. Elle est maîtresse de conférence à l'Université de Paris-Nanterre et chercheur au LESC. Donc merci encore infiniment tous les trois d'avoir accepté cette proposition et Catherine, je vous propose d'ouvrir le bal.
Merci beaucoup pour cette invitation, pour l'organisation de ce colloque. Merci pour toutes vos contributions qui ont été passionnantes et qui nous ont permis d'aller dans des endroits très différents. D'entendre des points de vue très différents et cette diversité, je pense, était aussi quelque chose qui était souhaité par les organisateurs. Donc ça, c'est un point qui est important et entre autres, que ce soit en termes de discipline, mais aussi de lieu, de pays, voire de langue. Comme vous le savez, puisque vous avez rencontré les mêmes difficultés que nous, nous avons eu beaucoup de mal à aller d'une session à l'autre et nous avions trois sessions en parallèle, donc c'est sûr que nous ne pourrons pas, ni les uns, ni les unes, ni les autres, parler de tout. Ce qui fait que j'ai fait le choix de ne pas citer quelqu'un, enfin peut-être que ça viendra en particulier, mais plutôt travailler en implicite, et puis que ça soit l'occasion que par la suite on puisse reprendre des éléments si besoin. Et je vais essayer de trouver la bonne distance par rapport à ce micro. Avec l'intitulé « Expérience sensible, fabrique et critique des territoires en mutation voilà. ». Ça sera beaucoup mieux. Merci. C'est formidable comme quoi il y a des choses matérielles qui résolvent parfois. Et donc, « Expérience sensible », et puis l'ambition du colloque qui était à partir quand même d'une histoire assez, assez connue, assez développée, assez forte, de pouvoir voir et maintenant où en sommes-nous, est-ce que avec des questions que nous avons à l'heure actuelle nous pouvons avancer, est-ce qu'il y a des remises en question, est-ce que les choses se passent autrement. Et j'aurais envie de dire, même si ce n'est pas forcément à moi de faire ce bilan-là, c'est plutôt aux organisateurs, de dire qu'à la fois il y a des avancées et à la fois je suis un peu perplexe sur le fait que j'ai l'impression qu'on retourne parfois un peu en arrière. Mais c'est normal, l'espèce humaine de temps en temps a des cycles quand elle ne sait pas se mettre en phase. J'improvise. Le premier point sur lequel je voulais revenir était une question que je me suis posée quelle est la pertinence de faire appel aux expériences sensibles? C'est idiot en fin de colloque, se poser cette question-là. Et puis je me suis dit, mais en fait, moi ça me fait penser à quelque chose qu'on a aussi beaucoup entendu, et c'est un mot qui, pour moi, résonne de plus en plus et fait sens. Et je ne sais pas quoi en faire, même si je commence à essayer d'en faire quelque chose, c'est celui de la lutte. Et comme vous commencez à le savoir, si vous ne le saviez pas déjà avant d'avoir rencontré la lutte récemment, la lutte, c'est quelque chose que l'on continue. On ne sait pas forcément quand on la commence, mais on la continue. Et nous savons que nous avons encore de grandes années à tenir avec la ou les luttes. Je suis plutôt d'habitude optimiste. Donc, la pertinence sur l'appel aux expériences sensibles, évidemment, mais il y a du chemin et c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Je me suis demandé dans ces deux jours et une soirée si parfois il n'était peut-être pas plus facile de rendre compte d'expériences de pensée que d'expériences de présence au monde, mais je n'en suis pas certaine non plus. Disons que par l'occasion d'une recherche, d'un colloque, d'un contexte, ou mieux, d'une situation, on peut s'y mettre, et donc cette expérience de pensée peut nous porter, nous apporter, et donc là, il y a des mises en mots qui vont peut-être venir. Mais pour être présent, il ne faut pas s'y mettre, il faut en être. Et alors, voilà. C'est pas si simple que ça. Je me rends compte que cette question, eh bien, elle, vous la tenez aussi, elle se renouvelle, elle doit être renouvelée, elle est inhérente à quelque chose qui est le fait d'en être, mais aussi la grande difficulté, c'est de comment on prend appui sur le fait d'en être. Est-ce qu'on peut prendre appui sur le fait d'en être, et surtout quand on ne... c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'immédiat. Donc il y a quelques pistes qu'on a entendues et qui sont assez fortes et sur lesquelles on peut peut-être voir comment est-ce qu'on travaille avec elles, qui est celle de la mémoire corporelle. Encore faut-il, à ce moment-là, on pourra essayer de savoir comment est-ce qu'on la convoque, des échanges, mais également des moments de coprésence. Donc c'est pour peut-être, mais d'une manière un peu fictive, parce qu'aussi il y a un peu de fiction on a eu beaucoup de narration. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment fictif le bon mot, c'est que j'ai souhaité que les rideaux soient ouverts pour qu'on profite de cette salle qui est située quelque part. Et aujourd'hui, en fait, je me demande si c'est vraiment aujourd'hui, puisque ça a commencé il y a très longtemps, si on suit Anat Singh, la situation nous amène vraiment non seulement à en être, mais à se demander comment est-ce qu'on souhaite... pollution, empoisonnement, mouvement de séparation et d'opposition, dualisme, penser l'autre comme son ennemi, des renfermements, mais aussi des collectifs, mais aussi des mouvements, les mouvements de la terre, tout ce qui fait que ces expériences, elles sont bien là et elles sont pas toutes positives, elles sont pas toutes négatives. Il faut savoir comment est-ce que on peut en être et faire en sorte que si on se dit qu'on peut peut-être prendre appui sur elles parce que c'est une nécessité à l'heure actuelle, comment faire pour qu'elles soient également puissantes, pas prendre le pouvoir, mais être également puissantes pour pouvoir engager dans l'avenir puisque nous sommes des êtres en devenir. Dans la recherche, comment est-ce que ces expériences sont-elles appelées? Alors, il me semble qu'il y a peut-être deux choses un peu claires. On pourrait dire qu'elles peuvent être appelées comme un objet d'étude. Mais un autre, me semble-t-il, est de les vivre comme un mode d'être. Et à ce moment-là, je pense que ceux qui sont dans la lutte ont vu que leur vie de chercheur et de chercheuse était transformée. Et je pense que ça peut être mis en avant, ça peut être dit, et que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être revendiquer, en tout cas qui pouvait être présent ici. L'indication peut-être la plus forte sur laquelle je voudrais commencer, ou continuer plutôt, est celle du sujet. Nous sommes des sujets vivants. Moi, je trouve ça absolument merveilleux. il y a quelque chose qui fait que nous sommes en vie. C'est pour ça que j'aimais bien l'expression. Merci Rachel. Nous répondons à vif. Nous sommes absolument à vif. On est à vif par tout ce qui nous touche, par tout ce qui nous détruit, par tout ce qui nous émerveille. Et nous sommes donc des sujets vivants. Et je commence à être un peu émue. Je ne l'avais pas prévu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Si nous sommes bien des sujets, si nous sommes situés, il faut à un moment donné rencontrer autrui, donc la question de l'altérité qui est aussi en nous. Il faut aussi essayer de savoir comment est-ce qu'on peut, en étant dans une culture occidentale ou occidentalisée, être pris sous cette structure de du sujet-objet, du corps-esprit. Tant qu'on ne s'est pas, à mon avis, débarrassé de ça, on aura un peu de difficultés et on sera dans des tensions internes que nous vivrons parce que nous avons un paradigme ou un système de pensée dominant qui, parce qu'il est dominant, il domine, et parce qu'il domine, il continue à dominer, et ceux qui ne souhaitent pas dominer de cette manière-là n'arriveront pas à dominer. Évidemment, vous allez me dire, la question n'est pas celle de dominer, et celle de vivre et de devenir. Mais voilà. Hein. Donc, effectivement, on peut aller voir du côté des chèvres, comme on l'a entendu tout à l'heure, mais ce n'est pas forcément la solution. Quoique. Enfin, ça va en faire beaucoup. Bon. Je n'avais pas prévu non plus. Je vais peut-être lui passer la parole, puis je vais revenir. Non, je voulais finir par une chose sur la question du langage. C'était assez extraordinaire de se rendre compte que le langage nous a vraiment beaucoup habité, continue de nous habiter. On a le langage aussi bien l'écrit, la parole, l'oralité, et puis les représentations, les cartes, hein, extrêmement importantes. On en a beaucoup vu, on a essayé beaucoup d'en lire, on n'a pas forcément tout compris. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement prenant et qui fait que ça, à un moment donné, ça va devenir un point très fort. Et je me dis que dans ces éléments-là, il y a quelque chose d'assez exceptionnel aussi dans cette tentative d'explicitation. Explicitation de soi, explicitation du monde, mais aussi de l'altérité, et quelque chose dans les colloques qui nous plaît beaucoup, en fait, qu'on fait, enfin j'imagine, enfin je dis on, mais c'est le fait, c'est de nous mettre en mouvement. La pensée, quand je parlais de l'expérience de pensée tout à l'heure, eh bien c'est extraordinaire, c'est comment quand on s'écoute les uns les autres, il y a des mises en mouvement, il y a à la fois des convergences, des dissonances, des choses qui font, voilà, ça s'ouvre, ça s'affirme, ça se dérobe, etc. Donc ça, je trouve que ce sont des choses qui sont extrêmement intéressantes, mais qui pourrait peut-être être interrogé, je pense que c'était un peu le cas dans certains des travaux qui étaient présentés, c'est que la question c'est est-ce que dans ce langage, quelle est notre capacité d'inventer un langage pour correspondre au moment auquel nous vivons, ou autrement dit, est-ce que les représentations ne représenteraient que ce que nous pouvons représenter maintenant ? A priori, non. C'est un peu facile, autrement, de dire qu'on ne représente que ce qu'on peut représenter. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire sur cela, c'est-à-dire sur ce qui serait représenté qu'on ne savait pas qu'on était en train de le représenter, par exemple. Ou est-ce que c'est encore du registre de la représentation ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait peut-être, et ça, c'est un point qui m'intéresse énormément, ne pas travailler uniquement sur du mémorable ? Bon, c'est une question. Et puis, je voulais finir sur, sur un grand remerciement sur, sur ces mises en mouvement que vous avez proposées. Et pour finir sur ce mot qui me semble extrêmement important, donc capacité imaginante, bien évidemment, mais capacité aussi de mise en lutte. Merci.
Merci Catherine, je crois que c'est parfait. Moi, je suggère qu'on en arrête là. Enfin, pardon. Qu'est-ce que vous voulez entendre de plus ? Parce qu'évidemment, mon exercice va sembler infiniment plus laborieux que celui auquel tu t'es si brillamment livré. moi, j'ai compris scolairement la question et j'ai essayé d'y répondre. On nous a demandé une synthèse. Alors, je me suis dit, synthèse, point d'interrogation, parce que la lettre de commande n'arrête pas de changer. Donc, je me suis dit, comment faire, le terme est absolument horrible, mais pour amalgamer ce dispar et le réduire. Réduire avec des guillemets, bien évidemment. Comme on réduirait peut-être une sauce ou quelque chose comme ça, je sais pas.
Une tête.
Une tête, ouais, merci. Tu peux le suggérer. Alors, j'ai repensé à ces 12 minutes d'assaise planante sur fond noir, suivi de 12 minutes d'hystérie, je mets des guillemets, sur image hypnotique, suivi de 12 minutes de mélancolie sur image langoureuse. N'est-ce pas ? C'était là une partition, une cartographie invisible dont la musique, elle ressort, n'est-ce pas, Giuseppe ? Et qui donnait à éprouver l'ambiance en des termes plus ouverts, si ce n'est plus heureux que peut-être l'affiche nous rassemblant. Pardon pour les auteurs de l'affiche, mais bon, je ne sais pas à qui je m'adresse en disant cela. Au moins, ça m'évitera d'être réinvité à donner une synthèse. Donc, j'ai éprouvé hier une forme d'accès de jalousie au regard de notre duo de musiciens qui s'exerçait au synthétiseur et jouait du sampling avec des sons et des images hétérogènes. J'avais du reste demandé en aparté à Giuseppe s'il pouvait ajouter des bribes de sons du colloque à leur composition. Il m'a dit le temps un peu court pour y parvenir. Et somme toute, nous sommes ici dans la même situation de synthétiseur. À ceci près que nous devrons, nous autres, sampler par la parole. Alors, comment faire ? Ambiance, où es-tu ? Ou plutôt, qui es-tu ? Tout le monde ici s'en réclame, mais décidément, c'est là une notion qui est toujours aussi difficile à saisir. Paradoxalement, on en saisit la présence, la nécessité, voire l'urgence, mais elle demeure toujours aussi difficilement définissable. Si la crise écologique est crise de la sensibilité, il se trouverait donc que l'ambiance en tant que vecteur de la sensibilité serait cruciale à interroger. La sensibilité atmosphérique procède fondamentalement d'une sensibilité écologique qui met à l'épreuve des ambiances ordinaires à ces trois niveaux. Vous aurez relevé la citation d'un auteur ici dans la salle, en introduction. Consistance. La consistance disait en somme, je l'ai traduit avec mes mots, un magma, une gelée cohérente de proche en proche, je pense à James, qui invite à identifier un milieu. Et ceci veut dire que la question de la spatialité ne suffit plus, elle ne colle pas avec cela. La résonance disait une forme de bouillon de culture, ou plutôt un bouillon du sentir. Je pense à Jean Rostand ou à Oexcul, qui a été à nombreuses reprises cité au cours du colloque. Et il s'agirait cette fois d'un partage d'une habitabilité. Enfin, la persistance disait une fourmilière de bonnes pratiques, une pratique de l'entretien des milieux de vie. Et je pense ici à John Tronto et à la question du care. Il s'agirait cette fois de convoquer une conscience en agir. Un milieu, un vivre, un agir. Nicolas Tixier, qu'il me pardonne, avait cette formule durant mon travail de thèse qu'il a en bonne partie accompagné. Dois-je le remercier une fois encore ? Il disait... L'ambiance, c'est là une notion paradigmatique qui passe par l'expérience. Était-ce une manière de se débarrasser du poids de cette définition impossible ? Du moins, cette question, l'expérience demeurait posée. Expérience du vécu expériencé, si on peut dire les choses comme ça, à laquelle j'ajouterais celle de l'agir expérimenté. Je vais y revenir. Cela commence par le sentir, nous disait Jean-Paul Thibault, en amont du percevoir, qui est déjà opération de connaissance, mais cela interroge le concevoir. Nombre d'interventions l'auront souligné. Si cette dévastation du monde nous hante, s'il s'agit de prendre acte de notre présence encombrante sur la scène de l'Anthropocène, dès l'introduction du colloque, nous aurons été mis en garde contre le risque de nous en tenir à la solastalgie, comme à l'éco-anxiété. Et c'est peut-être tant mieux. Il s'agit bien de s'emparer de l'ambiance comme ressort sensible et comme opérateur. De ce point de vue, cette dimension affective de l'ambiance à laquelle Bruce Bégout a consacré un livre entier, au point peut-être de l'y assigner exclusivement, et je le regrette peut-être, et dans notre travail vu aussi comme un formidable levier pour penser la conception à d'autres frais. Peut-être est-ce l'architecte qui parle, je ne sais pas. Il est une balance qui a été dite ici à plusieurs reprises entre représentation et présentation. C'est un peu le deuxième point que je voudrais faire valoir. À laquelle parfois le terme d'expression aura été préféré. Je pense ici à l'intervention de Pascal Enfou, en session 3, rapport sensible au vivant, quand était dite à juste titre par Louise Danève que selon Stengers, Isabelle Stengers, il n'y a rien de plus bête que d'estimer le monde intelligible ou compréhensible. Le représenter, c'est s'interdire l'imprévu. Ça me semble intéressant à entendre. Pascal Enfou fera en substance ce distinguo, mais peut-être que je trahis ses propos, entre une représentation environnementale, tandis qu'en ce qui concerne le milieu, c'est d'un processus dans lequel il s'agit d'entrer et qu'il s'agit de générer. On entre dans l'encours d'un processus, et donc, probablement, les modalités sont différentes. Laurent Devime nous rappelait ce mot de Lévinas à propos de la sensibilité, et peut-être est-il, là, cette citation est-elle inexacte, je l'ai peut-être mal notée, tu me le diras. Elle procède, la sensibilité, de l'inspiration et de l'expression, plutôt que de la représentation et de la narration. Je ne sais pas si c'est juste. Il semblerait que oui. Je ne peux m'empêcher d'apparenter cette balance entre présentation et représentation à l'histoire des images scientifiques dressées par Daston et Galison dans leur ouvrage Objectivité, quand ils déclinent ces trois âges, vérité d'après nature, objectivité, jugement exercé, dans une marche en avant allant de l'art de la représentation des naturalistes jusqu'à celui de la présentation, ou ce qu'on pourrait appeler de la présentification chez les protagonistes de la modélisation. Nous avons vu défiler quantité d'imageries différentes. Faut-il pour autant trancher définitivement ce débat? Je ne sais pas. Restons sur des questions. Mais pour le rapporter à ces différents registres où l'ambiance se joue dans nos sciences humaines, sciences physiques et disciplines du projet, serait-ce à dire que la question de la représentation perdurerait dans le registre de la documentation des situations données, tandis que la présentation intéresserait le registre de la conception. Mais on a, à vrai dire, très peu parlé ou très peu vu de modélisation durant ce colloque. Je m'interroge à ce sujet. Jean-Paul Thibault, lui encore, disait dans sa conférence cette ambivalence de la notion d'ambiance dans ses manifestations contemporaines. C'est mon troisième point. Il disait ce péril de la monétarisation du monde qui voit l'ambiance, urbaine en particulier, si bien façonnée qu'elle en deviendrait totalisante, pour ne pas dire totalitaire. J'ai eu à encadrer il y a quelques années une étudiante, à l'époque où Euro Disneyland sortait de terre ou brillait de tous ses feux. Elle avait vu dans le Val d'Europe moins une ville encagée dans une sécurisation intégrale, une gated community, ce qu'elle n'était pas, que dans un imagineering, pour reprendre les termes de ces ingénieurs en imagineering, où tout libre arbitre imaginaire était précisément confisqué. Voilà des signaux forts, un peu à craindre, je dirais. Mais il est des signaux faibles de l'ambiance. Jean-Paul a parlé de l'urbanisme clean, autre forme d'aplatissement du monde, quelque peu critique, mais il y a aussi les stratégies douces, ou faire valoir cette sensibilité atmosphérique, où nous aurions précisément notre carte à jouer. Je me souviens qu'à Volos, il était aussi question de cette ambivalence des signaux faibles à travers la question du discret. Ambiance soft et logique du contrôle d'un côté, versus ambiance amène et affordance sensible de l'autre. Il est évident que ma préférence penche plutôt pour ce deuxième plateau de la balance. Quatrième point. Mais nous avons aussi beaucoup entendu dire et vu les outillages nécessaires réenvisagés à nouveaux frais pour saisir la complexité de nos milieux et y inscrire nos pas. À commencer par cette entreprise de redescription des sites de l'Anthropocène par Terraforma et cette perspective toute simple, si on peut dire, consistant à produire des cartes en inversant la visée. Mais encore, se situe-t-on toujours dans le prisme optique ? Je le remarque, un œil gouverne malgré tout, et assurément dans la représentation. Pour autant, il s'agit bien d'outils, non d'un atlas, pour citer leurs autrices, en vue d'une performativité des images, des possibilités d'action. Nous avons eu tout à l'heure une démonstration fort intéressante de mise en œuvre d'enquêtes ethnographiques et cartographiques faisant valoir les conditions matérielles et sensibles de l'expérience des aires urbains, AIRS, en transformation sur le modèle des parcours augmentés, pardon, j'y reviens plus loin. Mais je pense aussi à cette étonnante saisie du vivant dans la complexité d'imbrication des Umwelt qui s'entrecroisent, proposée par Louise Danève au moyen du tissage. Ici, sur les traces des renards en milieu urbain, se dit un autre dessin revisité par l'éthologie, à l'instar de l'attention portée par Deligny sur les lignes d'air de ses enfants autistes. Autre sujet donc, autre dessin. Moi, je pensais, en l'entendant aussi, aux tentatives de Paola Vigano avec ses tissages pour rendre compte du travail sur l'urbain ou sur le territoire. Je pensais également à Laure Prouveau, l'artiste Laure Prouveau, dans sa saisie tapissière des réalités roubaisiennes, exposée au Fresnois. Enfin, dans un cadre d'agence et un registre plus balbutiant sans doute, ce déploiement des modes de figuration des sites et des projets avec Sati, ce que Te Hoon Yoon a nommé l'agence en plein air. On voit dans ces expériences en tout genre que beaucoup resterait à faire néanmoins pour recollecter le fruit de ces travaux, les mettre en ordre, les réfléchir, en faire recherche somme toute. Mais il se peut encore que pour sursoir à cette coupure entre expertise projectuelle et expérience habitante, de nouveaux protocoles de collaboration se déploient. C'est le cas, il me semble, dans la recherche exposée par Clara, qu'elle m'excuse, Rutschmann, de l'atelier Martel, associant une artiste dans sa relation aux habitants dans le contexte de réhabilitation en site occupé, avec cette lettre de commande donnée à l'artiste, voir, je cite, « l'œuvre sensible comme révélatrice d'attendus affectifs en puissance sur le site » et voir l'œuvre comme outil participatif, en plaçant de la sorte les artistes sur une lame étroite où ils sont autant, si ce n'est plus, entrepreneurs de méthode et facilitateurs que plasticiens. Néanmoins, passe-t-on ici, pour l'art, voire pour l'architecture elle-même, d'une logique d'invisibilité de la démarche donnant lieu à formalisation, c'était le cas pour le 1% artistique, comme je l'ai relevé lors de cette session, à une logique d'exposition d'une démarche, sans que celle-ci ne donne lieu à formalisation remarquable. Il s'agit de penser, à l'occasion de ce travail sur les ambiances, certainement, le travail artistique et architectural au titre d'une recherche, en valorisant précisément cet encours. Pour être moi-même engagé dans un travail de recherche au titre de mon HDR, je vois combien les entreprises en architecture, je préfère ce terme à celui d'agence, peu représentées ici dans cette assemblée, et je le regrette d'un certain point de vue, ne cessent de s'investir dans la recherche, tant pour documenter à d'autres frais le réel, on l'a vu avec Sati, et un parallèle a été fait dans la session art par Pauline Guinard avec la capacité des artistes à être acteurs de cette explicitation au titre d'une recherche-création, donc tant pour documenter à d'autres frais le réel que pour s'investir à d'autres frais dans le monde de la matérialité, où se conjuguent souvent des manipulations à la main et des modélisations à l'écran, dans la séquence données, modèles, décisions. Mais aussi le monde des ambiances, précisément, dans les agences, dans certaines agences ou entreprises en architecture, soit d'autres expressions, et non pas représentations, pour rendre compte de la matière invisible que les architectes manipulent, en sortant du géométral, en mouillant le dessin, en quelque sorte. Deux contributions sur l'air, sur la question de l'air à ce sujet, au terme de ce colloque, que je releverai, qui avoisinent ces questions-là. Cette belle pratique menée par Florence Bou, en contexte de pollution industrielle, sur des ateliers habitants, où il s'agit de caractériser l'air. Et cette démonstration fort éclairante proposée par Anne Bosset, Théo Forjac et Magdalena Romé. Car leur aérographie, consistant à rendre compte de ce plein air, ou plutôt de cet air plein de nos espaces publics, au regard des pathologies respiratoires affectant nombre d'entre nous, moi le premier, est non seulement une invitation à partager leurs souffrances, mais aussi à éveiller l'attention sur la corruption de nos aires urbains, avec cette visée opératoire, j'insiste sur cette dimension opératoire, qui consisterait, au moyen de cet outil, tenant lieu du transect, de fabriquer un outil critique susceptible d'alimenter les démarches de conception des espaces contemporains. Une réflexion à ce sujet. S'il apparaît que le AAU et le réseau ambiance sont souvent focalisés sur l'urbain et le paysage, peu de travaux retournent la mire sur les ambiances architecturales, me semble-t-il. Or, il me semblerait à cet effet particulièrement intéressant d'inviter des démarches de ce type à la gestion de l'air en milieu abrité, sinon habité, pour faire allusion à Luce Irigaray. Je l'ai dit tout à l'heure, à la différence de Heidegger, ça a été dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure en session, il me semble que beaucoup demeure à faire pour interroger nos conditions d'air dans les huis clos architecturaux à l'aune de la contradiction entre normes sanitaires et énergétiques. J'ai été étonné de ce point de vue que la séquence Covid ne nous ait pas davantage interpellés pendant ces 3 journées. Le confinement et le contrôle ont des choses à dire de la gouvernance, tant de nos espaces publics que de nos architectures du commun. Je termine, pardon, je suis peut-être un peu long. Je termine pour retourner la mire sur la recherche, la question de la recherche. Laurent de Vim le disait, ce changement de paradigme de l'anthropocène invite à repenser la science, y donner droit d'entrée à la subjectivation de l'expérience, ainsi qu'à faire entrer les sciences en démocratie, à l'invitation de Bruno Latour, bien évidemment, et Toledo s'en est fait l'interprète, Parlement de Loire, International des Rivières, etc. C'est accepter que d'autres champs disciplinaires y pénètrent, dont les arts, sciences, musique, narration, on l'a vu, récits, cartes, parcours les travaillants. Si l'ambiance est insaisissable, mais qu'elle est pour autant patente dans nos expériences, sa reconnaissance nous invite à accepter le sentir, à transformer la conception et à convoquer la recherche à son contact tout en bouleversant la nature. Tel me semble être le programme. Voilà.
Bien, il me reste 4 minutes et comme ils ont tout dit, je n'ai plus rien à dire. Non, l'exercice est vraiment difficile, d'autant qu'on n'a pas pu assister à toutes les sessions. Et donc, j'ai plutôt entendu la consigne de Rachel que celle de Nicolas. Donc, plutôt un rebond et non pas une synthèse. Et donc, je m'excuse, je suis totalement incapable de faire la performance qu'il vient de présenter, c'est-à-dire, dans un temps si court, présenter une synthèse aussi structurée. Donc, c'est juste des rebonds qui vont être un peu désordonnés. Je m'en excuse par avance. Merci d'abord pour ce colloque. Moi, il me conforte dans l'idée qu'on vit une époque absolument formidable. Et je le dis, alors si, avec une pointe d'ironie, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on vit une période profondément angoissante et en même temps passionnante, parce qu'effectivement, nous sommes amenés, obligés à repenser tout un ensemble de paradigmes. Alors moi, il y a un auteur qui m'aide beaucoup à penser, et je vais démarrer avec elle, c'est Isabelle Stengers, penser au temps des catastrophes, où effectivement, elle désigne cette période comme une espèce de période d'entre-deux temps. Je pense que la question de la temporalité, elle est fondamentale, et j'y reviendrai aussi dans les démarches et les méthodes qu'on met en œuvre, dans le sens qu'on donne à nos démarches scientifiques, le sens en tant que direction, là, pour le coup. Donc, une période d'entre deux temps, entre deux histoires, où nous devons, dit-elle, créer le sens de ce qui nous arrive, ou, dit autrement, enfin, elle le dit aussi ainsi, apprendre ce à quoi nous oblige ce qui est en train d'arriver. Ce à quoi nous oblige ce qui est en train d'arriver. J'aime beaucoup cette formulation. Alors, elle formule cette période d'entre deux temps comme étant liée à l'irruption de Gaïa, et nous amène à nous déplacer, à nous réinterroger, à penser les liens d'interdépendance, l'agencement des relations qui font le vivant, et à apprendre à composer avec la fragilité dont nous sommes constitués. Donc, cette période nous oblige à réapprendre et à nous réapproprier collectivement la capacité et l'art de faire attention. Donc, à penser les liens et les conséquences, y compris de ce que nous faisons, à penser les effets. Alors, Jean-Paul, en introduction de ce colloque, tu as été abondamment cité, c'est mon tour, affirmait que la crise écologique est aussi une crise de la sensibilité et nous invitait à penser donc l'ambiance comme un vecteur de changement des sensibilités, comme un vecteur d'une sensibilité que tu proposais de nommer atmosphérique, donc qui renvoie précisément justement aux divers liens d'interdépendance du vivant dans cette zone redéfinie comme zone critique par Latour. Tu disais qu'elle procède d'une attention portée à la fragilité, à la précarité des enveloppes qui nous habitent. Alors, il me semble effectivement, de là où je suis, c'est-à-dire je suis anthropologue, banqueur de ce réseau du Cresson, mais peut-être dans la première périphérie, mais en tout cas toutes ces approches en termes d'ambiance, avec toute leur histoire, elles ont permis de cultiver une attention. Elles ont permis de cultiver cette attention à la fragilité, à la précarité, une attention à ce qui émerge, une attention au pré-langagier, une attention diffuse à ce qui apparaît. C'est des approches qui ont permis de travailler aussi la porosité et les interdépendances, et donc de cultiver cette attention précisément dont nous avons besoin pour penser au temps des catastrophes. Donc il me semble que nous sommes peut-être mieux outillés pour repenser un des déplacements qui est certainement des déplacements fondamentaux, et là je te rejoins complètement, de notre époque, c'est-à-dire cette remise en question aujourd'hui par les faits de la frontière entre le sujet et l'objet. Époque formidable, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il n'y a plus d'en dehors du monde, il n'y a plus de dedans. Nous sommes faits du monde, nous le faisons, nous sommes traversés, nous sommes reliés, et on en a eu des démonstrations tout au long de ces deux jours, au travers d'expériences pratiques, d'enquêtes empiriques extrêmement concrètes. La ville elle-même, si on suit la tour, ne peut plus être pensée comme un environnement extérieur, mais il propose de définir la ville comme étant un exosquelette. En disant qu'un urbain est dans sa ville comme un Bernard Lhermitte dans sa coquille, donc il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur. Donc c'est une époque fascinante parce que cette époque nous oblige à repenser totalement ces liens et ces interdépendances. Alors, pour donner sens à ce qui nous arrive, donc, nous sommes conduits à repenser ce qui définissait le sujet. Un point me semble intéressant, alors là aussi je reprends ici des propositions d'Isabelle Stengers rappelle que pour William James la peur d'être dupe définissait les modernes. Elle dit même que William James en faisait un mythe fondateur des modernes, et cette peur d'être dupe est en train de vaciller complètement. Ce vacillement est un terreau d'expériences diverses, expériences de réenchantement, mais c'est aussi un terreau de peur, où nous sommes dans une époque où on voit émerger des sujets sans intériorité, des intelligences sans sujet. C'est un terreau d'expériences, d'expérimentation, de peur. C'est aussi, donc, pour ce qui nous concerne, un terreau d'expérimentation scientifique. On a eu, durant ces deux jours, tout un tas de présentations qui tentent de penser ce qui vient. Alors, William James encore disait qu'il y a des abstractions et des méthodes qui assèchent, qui stérilisent le monde, qui amincissent, il disait, amincissent le monde, et puis d'autres qui épaississent le monde. Et alors, durant ces deux jours, il y a vraiment eu des moments où j'ai eu la sensation que les approches permettaient d'épaissir le monde, permettaient de repeupler le monde, permettaient de densifier le monde. J'ai été très, très, très intéressée par tout un tas de projets justement qui prennent le risque de repenser, non pas, j'aime beaucoup cette formule, à partir de points de vue, mais à partir de points de vie, donc repenser de manière plus dense, à partir d'expériences, penser à partir, non plus de manière hors sol et décontextualisée, mais penser à partir d'expériences situées, des approches qui s'efforcent de faire avec l'existant, de récupérer, de transformer, pour s'adapter aux transformations se font sentir. J'ai été très intéressée par tous les exercices et les expérimentations de redescription qui nous ont été présentées pendant ces deux jours, comment décrire effectivement hein, ce qui n'est pas visible, comment imaginer les conséquences en chaîne hein, de la pollution d'un ruisseau, hein, comment alors intéressée par toutes ces expérimentations cartographiques et visuelles, notamment donc toutes ces cartes de Terra Nova, les cartes qui ont été présentées aussi par Anne Bossé et Théo Forjac, hein, qui nous donnent à voir une autre représentation des terrestres, et où on voit là aussi de manière très concrète un monde qui se repeuple d'une pluralité d'entités. Ces cartes, alors qu'il aurait fallu, c'est toujours la frustration dans ces colloques, enfin c'est ma frustration, c'est vrai que j'aimerais que le temps s'arrête et qu'on prenne le temps et qu'on puisse passer une heure sur une de ces images et les décortiquer et analyser ces cartes dans toute leur densité et leur profondeur. Donc là, elles sont passées très rapidement et elles m'évoquaient ces cartes du 16e où des monstres divers étaient représentés pour figurer la Terra Incognita, et je trouve intéressant ce parallèle, donc, mais de voir comment notre peuple, notre monde se repeuple à partir d'une interrogation sur ces points de vie de toute une pluralité d'entités avec lesquelles nous redécouvrons que nous sommes condamnés à vivre et qu'il va falloir ménager ces liens d'interdépendance extrêmement fragiles. Donc intéressée par toutes ces expérimentations, y compris hors du langage, hors de l'écriture, expérimentation visuelle, cartographique, et puis par tous les dialogues disciplinaires que cela suppose. On est une période où il y a un certain nombre de disciplines qui sont en crise. L'anthropologie fait partie de ces disciplines. On a de moins en moins d'étudiants et c'est à l'échelle nationale. La commission 38 va signaler ce fait parce qu'elle a des remontées absolument catastrophiques de tous les départements. C'est la même chose en sociologie, donc il y a quand même des sciences humaines et sociales qui sont profondément en crise aujourd'hui, et en même temps dans tout ce qu'on a entendu aujourd'hui et hier, on voit bien qu'il y a un tas d'endroits où on aurait besoin de cette intelligence-là. Quand on voit l'importance des services techniques dans la mise en place, la réussite ou l'échec d'un certain nombre de projets, ce qui nous était raconté ce matin, tout à l'heure, là, dans le duo sur ces conseils, ce conseil de l'eau, où des techniciens sont très très éloignés à la fois des terrains et des expériences. On se dit que c'est vraiment des lieux où on aurait besoin de ces intelligences sensibles, ces manières de penser avec le monde, ces manières de penser impliquées. Et on voit bien qu'on a des étudiants qui ne se sont plus du tout intéressés par ces approches-là. Et dans les expérimentations là, qui nous sont présentées, ce qu'on voit, c'est la nécessité de repenser de manière interdisciplinaire en fait, des approches. Donc c'est vraiment le moment, je sors de là en me disant que c'est vraiment le moment où il faut qu'on arrive à réfléchir collectivement à d'autres approches qui nous permettent de dialoguer d'une discipline à l'autre à partir de paradigmes forts. Qui peuvent être justement cette question des points de vie, réfléchir à partir des points de vie, et qui nécessite tout un tas d'intelligence, de méthodes, donc j'ai été intéressée, oui, par ces expérimentations cartographiques, et puis surtout par tout ce qui était, par toutes les approches qui étaient très expérimentales, donc qui prennent le risque, et nous sommes obligés aujourd'hui de prendre des risques. Nous sommes absolument, donc le duo tout à l'heure aussi m'a beaucoup intéressée pour ça, parce qu'effectivement, on est obligé par conséquent de se mettre dans une démarche où on doit s'accorder le droit à l'erreur, le droit à l'échec, le droit de ne pas y arriver, de tenter des choses qui n'aboutiront pas, donc par cette conception de la carte comme parlement qui permet de faire se rencontrer une pluralité. Je sais plus qui parlait aussi de cette carte comme un outil d'empowerment, c'est-à-dire qui vont donner aussi à permettre à ceux avec qui on les réalise d'apprendre à décrire son propre territoire. Donc là aussi, il y a dans les expérimentations des méthodologies qui sont fertiles et qui épaississent et qui enrichissent le monde dans la mesure où elles vont faire avec et elles vont transmettre un certain nombre de compétences. Donc il y a quelque chose comme une intelligence collective située qui est révélée d'une certaine manière par ces méthodes, et des compétences qui peuvent être transmises aussi hein, par ces approches. C'est-à-dire, il y a des méthodes, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, c'est pas très joli, mais ça vient comme ça, des méthodes capacitantes hein, qui vont produire de la réflexivité croisée et qui sont tout à fait pertinentes. Hein, là où, par ailleurs, d'autres méthodes peuvent être absolument stérilisantes et transformer les gens en agents voilà. Enfin bref, je passe ce côté-là. Je vous avais prévenu que ça serait confus. Cette époque, je vous disais, on vit une époque merveilleuse. C'est un trouble qui nous oblige à penser autrement, qui nous oblige à penser, comme disent Didier Debèze et Isabelle Stengers, penser au risque des effets. J'aime beaucoup la formule. J'aime beaucoup ce que ça m'oblige à penser, penser au risque des effets. Il me semble que face à ce qui vient, qu'on le veuille ou non, on est obligé d'inverser la démarche. C'est-à-dire que le temps s'est inversé, ce qui a des conséquences extrêmement concrètes sur la manière dont on peut envisager la recherche. Cette inversion du temps suppose qu'on soit aujourd'hui, qu'on accepte hein, de faire des paris, de prendre des risques. Alors, ces risques peuvent être effectivement, comme on nous l'a présenté, de donner un statut juridique aux éléments naturels, à des formes de vie. Hein. Mais c'est surtout prendre le risque d'expérimenter pour les générations futures. Donc prendre le risque de penser pour une temporalité qui nous dépasse et qui nous redéfinit, qui redéfinit le présent au passé. Donc il y a une inversion hein, du temps qui nous oblige à nous positionner autrement et qui nous oblige à nous interroger sur les effets de nos démarches, de nos méthodes et de nos théories. Pour autant, c'est vrai que j'ai pas eu l'impression, on n'a pas pu voir toutes les sessions, j'ai pas eu l'impression que toutes les méthodes et toutes les démarches qui ont été présentées relevaient du même paradigme. Hein. J'ai parfois eu l'impression que nous ne parlions pas de la même chose, que nous ne parlions pas de la même réalité, derrière les mots hein, qui pouvaient être communs, il y avait à la fois des perspectives et des projets extrêmement différents. On voit remonter des vieux réflexes, peut-être académiques, je ne sais plus comment tu les as qualifiés, alors qu'ils peuvent être du scepticisme critique, ou toujours ce paradigme du prélèvement, ou des tentations d'encodage hors sol, etc., etc. Toutes les approches présentées comme portant sur le sensible ne relèvent pas pour moi du même paradigme. Alors il ne s'agit pas pour nous de distribuer les bons et les mauvais points, mais simplement j'ai trouvé intéressant ce constat-là aussi, c'est-à-dire qu'effectivement peut-être que la conclusion pourrait être celle que tu proposes, c'est-à-dire que la lutte continue, hein, continuant, mais c'est aussi le fait que si on doit retrouver des paradigmes aujourd'hui qui nous permettront de repenser de manière interdisciplinaire des recherches adaptées à l'urgence de ce qui nous arrive et qui nous permettent de dignement essayer de répondre aux questions que pose le monde, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ce que sont ces paradigmes-là. Et il me semble que, du coup, toutes les approches présentées derrière le label sensible ne relèvent pas du même paradigme. Voilà. Donc la lutte continue, je finirai là-dessus. Thank you.